Je voudrais vous raconter l'histoire d'une question, ou plutôt l'histoire d'une femme. C'est une actrice capable de tout jouer, du comique comme du grave ou du social, du léger comme du profond. Et la question, légère et profonde à la fois, c'est celle du propre de l'homme. Qu'est-ce qui nous distingue des bêtes ? Étrange animal à la fois si proche et si loin de nous, qui nous tend un miroir dans lequel nous cherchons la trace de notre humanité. Elle se pose cette question en préparant son rôle pour ce film « As Bestas, les bêtes ou comme des bêtes », dans lequel elle incarne une femme digne et obstinée. Qu'est-ce qui fait de nous des animaux à part ? Chaque fois qu'on a cru identifier un propre de l'homme, les progrès de l'éthologie ont montré que les choses n'étaient pas si simples. La conscience, les animaux en ont une. La différence est de degré, non de nature. L'inquiétude, il faut n'avoir jamais vu trembloter les oreilles d'un animal aux aguets. L'altruisme, il faut ne pas connaître. L'existence du cratérope écaillé, cet oiseau proposant, sans rien demander en échange, de garder le nid des autres oiseaux, protégeant les oisillons des prédateurs le temps que leur mère revienne avec le goûter. Le langage, il faut n'avoir jamais entendu des bonobos discuter ou n'être jamais tombé une seule fois à la télévision sur un épisode des Ch'tis ou des Marseillais. La sociabilité, il faut n'avoir jamais vu une ruche, une fourmilière, une nuée d'oiseaux migrateurs. Elle se plonge, pour préparer son rôle, dans l'éblouissante somme d'Elisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes, toute l'histoire de la philosophie relue à la lumière de la question du propre de l'homme. Peut-être songe-t-elle que son propre métier d'actrice apporte la meilleure réponse qui soit à cette question. Par ce métier, elle peut être successivement une mère de famille débordée, une flic névrosée, une bourgeoise lesbienne, une actrice égarée ou même un homme Hervé Guibert. Quel animal est capable de ça ? Quel animal est capable d'ainsi entrer dans d'autres vies que la sienne ? Quel animal a cette liberté de s'inventer autre qu'il n'est ? L'animal, écrit Sartre dans L'être et le néant, est englué dans son être. L'animal est ce qu'il est. Nous, les animaux humains, nous ne sommes pas. Nous devenons. Nous pouvons même devenir à l'infini. C'est cela le sens du néant dans le titre « L'être et le néant ». Le néant n'est pas rien, il peut même tout devenir. Alors elle repose le livre, appelle la réalisatrice, elle lui dit que ça y est, elle est prête pour le rôle. Pour en parler ce matin du propre de l'homme et de notre liberté, j'ai la joie de recevoir celle que vous avez probablement reconnue, Marina Foïs, actrice et comédienne à l'affiche d'As Bestas, qui sort en salle après-demain, le 20 juillet. Marina Foïs, donc, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à répondre à cette difficile question, comment on fait pour ne pas vivre comme des bêtes ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Marina Foïs.
Bonjour, j'espère être au niveau, c'est pas gagné.
Alors non, je vais vous dire tout de suite, c'est un mauvais début. On n'est pas là dans un contrôle de connaissances. D'abord, je viens de voir votre film, c'est moi qui ne vais pas être au niveau parce que je suis complètement traumatisé par ce film, As Bestas, qui est très très beau. Donc c'est un film franco-espagnol de Rodrigo Sorogoyen, dans lequel vous jouez cette femme, enfin vous êtes un couple, vous partez vous installer en Galice, en Espagne, dans la campagne, pour réinventer un bonheur en cultivant des tomates, en construisant sa maison. Et ça se passe très mal avec des voisins qui sont des paysans espagnols, des gens un peu simples, un peu russes, qui vivent dans les montagnes. Et ça va dégénérer. Et c'est un film très angoissant, très très beau, très profond, très philosophique, je trouve. Et donc, c'est moi qui ai peur de pas être au niveau. Mais revenons à la question que je posais. Est-ce que cette manière quand même de jouer des rôles si différents, c'est quand même une manière d'éprouver une liberté très humaine, finalement ?
Oui, en fait, je crois que j'ai l'impression que là, on a tous besoin, c'est universel, un besoin de fiction. Alors, je sais pas si c'est ça qui nous différencie des animaux, mais là, se nourrir d'autres histoires que les nôtres. Et nous, acteurs et gens qui faisons du cinéma, la chance qu'on a, c'est que cette nécessité devient notre quotidien et que c'est là, pour moi, c'est le luxe ultime. Je peux sortir de ma réalité qui, au fond, allez, comme celle du reste du monde, relativement ennuyeuse, quasi banale, répétitive, et que c'est l'occasion de vivre, mais aussi de découvrir d'autres mondes qui me nourrissent, qui m'enrichissent, ou qui tout simplement me divertissent, me changent de mon quotidien étriqué.
Vous tournez énormément quand même. 2021, je crois qu'il y avait 4 ou 5 films à l'affiche. Tout le monde ne tourne pas autant.
Alors moi j'ai un problème. Je pense que je suis malheureusement plus adaptée au plateau de cinéma peut-être qu'à la vie. Quoi, ou alors les plateaux de cinéma me rendent très apte à la vie. Je pense que je suis mieux avec mes enfants. Je suis une meilleure mère. Je suis une meilleure amie. Je fais tout mieux quand je suis tenue par ce cadre qu'est le travail. Quand je suis toute seule face à moi-même, je pense trop à moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai besoin du cinéma, de parler d'un travail. Ça me met une distance avec moi et ça me rend meilleure partout. Donc je travaille beaucoup aussi parce que j'ai la chance qu'on me propose beaucoup de choses. Ouais. Je ne sais pas dire non à quelque chose qui m'intéresse et il y a plein de choses qui m'intéressent. Ma curiosité ne se tarit pas ou ne se tarit pas encore et je dirais même au contraire, plus je travaille, plus j'en ai envie en fait parce que je rencontre des gens de plus en plus intéressants. Soro Goyen est un sommet de je sais pas, il m'a rempli de tout, de beaucoup de choses, il m'a appris beaucoup, je me suis amusée beaucoup. C'est un métier profond mais très divertissant, il y a de la joie à faire du cinéma même quand on fait du drame. Donc ouais. je sais pas dire non.
C'est vrai que c'est pas un film joyeux, autant le dire tout de suite, mais c'est un film très troublant. Et d'ailleurs, il y a une scène dans ce film, alors je ne spoile pas, je la raconte pas. De toute façon, il y a pas de doute, on sait que ça va dégénérer.
On sait que ça va dégénérer. Et puis surtout, c'est un fait divers qui a été assez connu en Espagne, une histoire qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc, c'est pas tellement l'issue, c'est comment on traverse l'événement plutôt que le résultat.
Voilà. Et donc, dans la scène que j'évoquais, dans le fait divers en question, donc c'est un crime. Il y a vraiment, c'est filmé de manière à ce qu'on ait l'impression que la bouche de la personne qui est assassinée, sa barbe, sa peau, ressemble à celle d'un cheval ou d'une vache. C'est très beau, c'est très long comme scène, c'est très violent. Ça pose vraiment la question philosophique, au fond, de ce qui nous distingue des bêtes. Hein. À un moment, l'homme est capable, comme ça, de revenir en arrière, à une forme de sauvagerie ou de bestialité. Et puis, parfois, il est capable de s'élever. Et notamment, une manière de s'élever, et c'est ce que le film raconte aussi, c'est de trouver un lieu, au fond, où s'établir, où réinventer son bonheur, où se poser. Mais alors, c'est pas nécessairement le lieu dans lequel on est né. Le film raconte un peu ça aussi.
C'est toujours la question, est-ce qu'on est obligé d'être défini que par là où on vient, là où on est né, est-ce qu'on n'a pas le droit d'être qui on est au moment présent? Ça c'est une vraie question qui, au-delà du film, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est chiant d'être amené toujours à là d'où on vient, et c'est une prison, et en même temps, sans ces racines-là, on est qui? Je veux dire, on cherche toujours à se raconter dans cette histoire-là, mais c'est vrai que le film lui parle de xénophobie aussi, ouais. du mal qu'on peut avoir à accepter quelqu'un qui nous ressemble pas forcément, mais le film ne raconte pas ne raconte pas que c'est impossible, ne raconte pas que ça marche pas, il raconte comment ça dérape. C'est un film en fait qui envisage, il est intéressant comme cinéaste Soro Goyen parce qu'il multiplie les points de vue et c'est pas un film qui donne une morale ou qui donne des petites réponses à des grandes questions.
C'est sûr.
Il épouse plein de points de vue. C'est un film aussi sur la lutte des classes, la différence entre c'est nous qui allons être victimes, mais nous on arrive un peu comme des colons aussi avec un savoir et l'arrogance de ce savoir-là. On veut un peu expliquer aux gens ce qu'ils pourraient faire de leur région.
Notamment avec cette question qui est centrale au début du film, qui est la question des éoliennes. En fait, ces paysans un peu simples, on va dire, ont la possibilité de gagner beaucoup d'argent en acceptant que s'implantent des éoliennes. Et c'est vous, les bobos, entre guillemets, parce que c'est pas non plus des...
Non, mais voilà. Si on dit des gens simples, alors disons des bobos.
Voilà, c'est ça, pour qu'on comprenne un peu les enjeux. Et c'est vous, ce couple-là, qui s'y refuse et qui essaye d'expliquer pourquoi. Donc le malentendu comme ça est creusé. Et c'est vrai qu'il y a cette idée aussi qu'on pourrait essayer de se comprendre malgré ces différences. Et le film montre que ça marche pas.
En tout cas, dans ce cas-là, ça marche pas. Il y a une très longue scène qui est un long plan séquence entre Denis Ménochet et Louise Zahera, qui sont les deux qui s'affrontent le plus violemment. Et la scène, elle est passionnante parce que moi, vraiment, en tant que spectatrice, quand j'entends le point de vue de celui qui veut ses 50 000 euros pour se barrer de cette région dans laquelle il est né, dans laquelle il étouffe, qui veut réinventer sa vie, et l'autre qui dit c'est pas vrai, tu te fais arnaquer par un système dont tu es la victime, tu ne comprends pas. En fait, les deux points de vue, on est dans la merde. Ouais. Parce que les deux ont raison.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, Denis Ménochet. Enfin, il dit, mais alors on fait quoi maintenant? J'ai compris. En fait, tu veux que je bouge, mais moi, je peux pas bouger. D'ailleurs, il peut pas bouger notamment.
En fait, il peut. Ouais, sauf que la différence, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est face à. Il y a un couple qui a le choix. Il a eu choix de quitter son pays d'origine pour venir s'installer là, pour faire de l'agriculture bio, de s'installer loin de sa fille. Il a eu le choix de dire non à sa famille, à sa culture, à son pays. pour changer de vie. Eux, ils ont apparemment, ils n'ont pas le choix. Ils sont dépendants de cet argent et donc du vote, de notre vote.
Mais là où le film est plus subtil, comme vous l'avez dit, c'est que ce couple aussi va se retrouver à ne plus avoir le choix pour des raisons que je ne décris pas. La scène que vous évoquez, elle est dingue. Je trouve qu'ils jouent tous les deux extrêmement bien. Ouais. J'avoue que je ne connaissais pas cet acteur espagnol, mais qui
est
connu là-bas.
Oui, c'est une star.
Il joue le grand frère parmi deux frères qui n'ont pas de femme, qui n'ont pas d'enfants et qui sont coincés comme ça dans ces montagnes violentes. Et Denis Ménochet joue sublimement. Et vous avez raison, c'est l'expérience d'une altérité. En fait, les deux visions se comprennent, se comprennent respectivement, les deux s'entendent sans pouvoir se comprendre entre elles. C'est vraiment une très belle scène. Je vous propose qu'on écoute d'ailleurs un extrait.
Si j'avais pas été là hier soir, il t'aurait tué.
Mais non.
Si. Il t'aurait tué. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient au milieu de la nuit à nous attendre comme ça, avec un flingue sur l'épaule? Ils attendaient quoi?
Ils étaient bourrés, c'est tout.
Et alors?
Alors, ils sont comme ça.
Moi, j'ai peur. Maintenant, j'ai peur. Toi aussi, t'as eu peur hier soir. Alors, on continue à vivre comme ça.
Ils sont comme ça.
Et ouais. En fait, le rapport entre ces deux hommes qui s'affrontent, il est hyper intéressant. Parce qu'il y a un truc de ce que c'est qu'être un homme que je... Sorogoyen, il est marrant parce que il a beaucoup filmé des espèces de personnages d'hommes, des flics, des hommes virils dans la puissance, avec du pouvoir, tout ça. Et à chaque fois qu'il les filme, on voit toujours le petit garçon. C'est pas du tout une représentation viriliste des hommes et tout. Et c'est hyper intéressant. Et là, dans ce film-là, on comprend très bien cette injonction. L'homme, il a été élevé jusqu'à aujourd'hui, ça change, tant mieux, pour faire la guerre, mais pas seulement pour la faire, pour la gagner. Et il y a une impossibilité de déposer les armes, et c'est une prison dans laquelle ils sont. Alors même lui, même le personnage d'Antoine, il trouvera des excuses à son ennemi pour pouvoir continuer le jeu. Et je pense que c'est presque un jeu érotique, c'est-à-dire qu'ils se chauffent, ils sont incapables, peut-être qu'il fera mieux de coucher ensemble une bonne fois pour toutes.
Ils sont incapables de lâcher ce rôle.
De se lâcher l'un l'autre, en fait. C'est un truc, ils se chauffent, ils existent dans ce combat-là. Et c'est pour ça que elle... ses armes à elle, et pourtant c'est lui qui l'aime, le couple il existe très fort, elle va perdre dans cette guerre-là parce qu'elle perd sa place, elle n'a pas les armes.
Et d'ailleurs ce personnage que vous jouez, donc Olga, c'est assez intéressant, pendant une première partie du film, il est discret, et puis en fait, pour plein de raisons, il va prendre la place et incarner une figure quand même de celle qui essaye de remettre dans un monde de violence, un peu de dignité, peut-être mettre un terme au cycle sans fin de la vengeance, et peut-être mettre un tout petit peu de douceur dans cette brutalité quand même viriliste. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle?
Alors moi, justement, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. D'abord, une de mes premières lectures, c'est que c'était quand même une grande histoire d'amour, celle d'Antoine et Olga, et que moi, j'aime l'amour. C'est une blague, mais c'est vrai. C'est surtout un film de non-vengeance. Et vous savez que Truffaut disait qu'il détestait les films de vengeance. J'ai ce point commun avec Truffaut. Je n'aime pas qu'on consacre une œuvre à raconter que l'œuvre d'une vie, c'est réparer un truc qu'on nous a fait il y a longtemps avec les mêmes armes qu'on a utilisées contre vous. Je n'aime pas cette vision de la vie. Ce film-là, il raconte autre chose. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a cinématographiquement un changement de point de vue. Ouais. Il paraît que c'est comme dans Alien, le personnage principal n'est pas celui qu'on croyait. Enfin, le point de vue, la charge du film passe de main et les problèmes se règlent autrement. En fait, les femmes, on nous a plutôt suggéré de faire la vaisselle que la guerre. On n'a pas la même puissance physique et on n'a pas le pouvoir. Donc, on n'a pas les mêmes armes. On est obligé de les inventer ailleurs. C'est un peu ce que raconte le film. Elle n'a pas le choix que de trouver autre chose, que donner du sens et donner un avenir à cette histoire-là. C'est pour ça que la vengeance ne sera pas une solution, l'escalade non plus. C'est assez beau, c'est une forme aussi de d'espoir ou de perspective. Et moi, je suis toujours bouleversée. Vous savez, régulièrement, on entend des faits divers, des parents qui ont perdu leur enfant dans des circonstances atroces, un crime, un attentat, tout ça. Et des gens qui vous racontent, qui ont la dignité ultime. Moi, je suis bouleversée par ces gens qui font quelque chose de la douleur. C'est des exemples. Et heureusement qu'on a ces témoignages-là pour nous traverser nos mini-épreuves ou nos petites cascades. C'est important pour moi de raconter l'humanité à cet endroit-là.
Ouais, c'est beau. Le film est en effet une méditation sur la possible sortie de la vengeance.
Oui.
Il me fait penser, vous savez, à ce film de Clint Eastwood, génial, où en fait un homme a perdu sa fille qui a été assassinée ou violée, je ne sais pas exactement. Et en fait, on a l'impression que c'est toute la mécanique du cinéma américain habituel où on veut qu'il se venge. Et en fait, il construit sa vengeance. Et puis au dernier moment, on s'aperçoit que c'est le contraire. C'est quoi ce film déjà?
Mystic River.
Non, c'est un autre. À la fin, on a l'impression qu'il va aller tuer les assassins de sa fille, et finalement, il se laisse assassiner pour que la police finalement
intervienne,
et que ce soit le droit qui remplace.
Vous êtes sûr que c'est Clint Eastwood ?
C'est Gran Torino, exactement, exactement. Okay. Et donc, ça me fait penser. Enfin, c'est une autre réflexion comme ça sur le fait qu'on peut sortir de cette logique, de ce cycle finalement sans fin de la vengeance.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
C'était Stromae, formidable.
Sous le soleil de Platon.
Je fais de la philosophie, vous faites du cinéma.
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Marina Foïs et nous parlons de ce film Asbestas qui sort dans 2 jours en salle et qui nous raconte l'histoire de l'humanité aussi quand elle réussit enfin à s'arracher à la sauvagerie. C'est aussi un film sur le langage puisque ces paysans espagnols a priori sont un peu frustres. Ils semblent ne pas très bien réussir à s'exprimer, sauf qu'en fait, c'est pas ce qu'on croit. Et il y a une très belle scène où le frère aîné, parce que le petit frère est un peu déficient mental, c'est autre chose, mais le frère aîné, quand il se met à expliquer ses arguments, à expliquer pourquoi la présence de ces bobos l'empêche de prendre son argent et de s'évader, eh bien, il parle très bien.
Oui, absolument. Mais même la scène d'ouverture, l'espèce de scène de western où on découvre les personnages petit à petit dans un bar. Lui, il raconte, il parle du mépris français, justement, comment les Français méprisent les Espagnols, mais enfin la guillotine, la sauvagerie espagnole comparée à la sauvagerie avec tout un argumentaire sur quand est-ce qu'ils ont dit guillotiner le dernier mec. En fait, juste, il prend beaucoup de contre-pieds Sorogoyen qui sont vachement intéressants. Ils sont rustres, mais le langage, l'argumentaire, il est il est là, ils sont, comment dire, il y a une pensée qui est pas tout à fait construite pareil, mais c'est pas des, bah, s'ils étaient bêtes, si c'était que des, ce serait pas intéressant, ce serait trop facile, et il est beaucoup plus intelligent que dans la caricature.
Bien sûr. Et c'est là que le film est fort, et c'est là que il y a une théorie que j'aime bien de l'œuvre d'art de Nelson Goodman qui dit une œuvre d'art, enfin, qu'est-ce qui distingue, par exemple, un récit qui est une œuvre d'art d'une simple narration, ou qu'est-ce qui distingue un tableau d'un simple dessin, ou un vrai roman de littérature d'un article, et dit c'est quand il y a de la polysémie à chaque fois. C'est-à-dire quand à chaque fois on est surpris, ça pourrait être ça, mais c'est aussi autre chose. Et il y a vraiment ça dans ce film.
D'ailleurs, le personnage de Louis Deira, le grand frère, il parle beaucoup. En plus, il a une voix qui est ultra musicale. En fait, il a un truc qui est comme magnétique. C'est l'acteur et ce qu'il joue. Le personnage d'Antoine, il est beaucoup plus mutique. Le personnage d'Antoine, qui est donc le bobo, mon mari, le français, il est très physique, on dirait. Il s'exprime relativement peu. Il a une violence. Ce qui est très beau dans ce que fait Denis Ménochet, c'est qu'alors qu'il a une espèce de charisme et de puissance physique, c'est pas du tout là-dessus qu'il joue. Et il y a un truc d'humiliation, et c'est rare, les acteurs, il faut saluer ça, qui prouvent autre chose que leurs muscles et qui sont capables de montrer ça. C'est-à-dire, le moment où on est humilié, il se fait vraiment cracher à la gueule, il le reçoit, le crachat de Denis Ménochet. C'est un moment qui est très fort, parce que je pense que ça nous rappelle la cour d'école à tous.
C'est très, très beau ce que vous dites, et ça met des mots sur ce que j'ai ressenti. Il est encombré. Parce que gros corps, il est un peu puissant, mais il est surtout encombré, il est surtout entravé. Il a du mal à le porter, ce corps. À un moment, les voisins pissent sur son fauteuil. Quand il essaye de monter dans une voiture parce qu'il est tombé en panne, l'autre accélère. Et c'est vrai que c'est aussi un film sur l'humiliation.
Ouais, absolument. L'humiliation sociale, qui est celle des deux frères, qui, eux, n'ont jamais eu et n'auront jamais le choix. Et ceux qui choisissent, c'est eux qui vont perdre. Mais ouais, c'est une question de ça. C'est la place que je ne te donne pas.
Alors le film raconte aussi ce désir de ce couple de quand même de pas de s'enraciner mais de se poser quelque part, de trouver un lieu à soi. Ouais. Est-ce que ça c'est plutôt humain ou c'est plutôt animal ?
Oh ben je n'ai pas la réponse. En tant que personne, je dirais que c'est humain si j'étais un animal. Non, je sais pas. c'est un fantasme. Après, c'est un truc aussi très contemporain, c'est-à-dire que donner du sens, c'est-à-dire rejeter un modèle de société dans lequel nous on s'est senti enfermés, trouver une liberté, trouver du silence, c'est théorique, c'est tout ça. Après, c'est un couple qui s'aime et Sorogoyen qui filme un peu tout très bien. Il filme aussi cet amour-là qui est un vieil amour. Hein. Ils doivent être ensemble depuis 25 ans. Il reste ce truc-là qui est très charnel. On les voit manger du jambon. Et voir rigoler, fumer un pétard, profiter des étoiles et de la lumière dans un truc très basique, alors quasi animal ou primaire.
Vous vous êtes demandé quand même pourquoi on ne les voyait pas faire l'amour ou s'embrasser ?
Parce qu'il n'y a pas besoin.
Oui, mais c'est quand même une idée. Enfin, c'est quand même une question, je pense, non ? Ils sont tous les deux comme ça, en train de réinventer le bonheur possible dans une campagne qui n'est pas la leur.
Il y a un moment où ils s'embrassent, on imagine qu'il y a une sexualité. Enfin, je veux dire, c'est une question qui ne se pose pas. La chair, il est marrant, Sorogoyen, parce que c'est quelqu'un d'ultra cérébral, très intelligent, hyper cultivé, il maîtrise la grammaire du cinéma, tout ça. Mais il n'oublie jamais ni son désir, ni son instinct. Il est très guidé par aussi le désir du présent. Ces films, ils sont très incarnés. Non, il a fait une série qui s'appelle Antidisturbios. Il y a une scène de cul qui est ultra érotique. C'est ce mélange-là. Je pense que ça existe assez fort pour qu'il n'ait pas besoin de l'illustrer. J'ai l'impression.
Ouais. Alors, Marina Feuze, vous avez une caractéristique, c'est de faire aussi bien des films comiques, des films légers, que des films graves comme cela, ou même sociaux. Donc, parmi les films dans le registre comique, on peut citer Papa Maman. Bientôt, sort en salle le 3 août, L'année du requin, avec Jean-Pascal Zadi et Kad Mirad. Dans la veine plus sociale, La fracture, par exemple, de Catherine Corsini avait vraiment marqué les esprits. Qu'est-ce que vous recherchez dans l'un et qu'est-ce que vous recherchez dans l'autre ? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est justement de quelque part de se perdre et de toucher un peu à tout ?
Non, je recherche le cinéma. Moi, je suis très spectatrice. Quand je travaille pas, je vais au cinéma trois fois par semaine et puis la nuit, je regarde un film sur la Cinéthèque. Donc, en fait, c'est le cinéma qui me guide. J'ai des goûts très éclectiques et j'ai la chance que ma carrière soit aussi éclectique que mes goûts. Je sais pas par quel miracle, mais moi j'ai besoin qu'on me raconte le monde de plein de manières différentes. J'ai besoin de légèreté parce que la vie elle est trop lourde. Donc j'aime la comédie plus que tout. L'humour c'est l'art suprême. J'en ai besoin. J'ai aussi besoin d'un cinéma réaliste parce que j'aime bien être représentée. J'aime bien me reconnaître. J'aime bien aussi me découvrir. Il y a des films qui m'ont appris le goût des autres. Le film de Bakri Jaoui, il m'a appris quelque chose de moi, il m'est resté. Je l'ai vu il y a 20 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Un truc sur nos réflexes, nos a priori de pensée, ces choses. Le cinéma m'a construit, m'a fabriqué, pas que parce que je suis actrice. La spectatrice et l'actrice, ça a fait la personne que je suis. J'en ai besoin et j'ai besoin de tous les cinémas. Je ne veux pas, moi j'aime le bordel.
Qu'est-ce que c'est avoir une idée au cinéma? Si l'on fait du cinéma ou si l'on veut faire du cinéma, qu'est-ce que c'est avoir une idée? Lorsqu'on dit, tiens, j'ai une idée. Parce que d'une part, tout le monde sait bien qu'avoir une idée, c'est un événement rare. Ça arrive rarement. Avoir une idée, c'est une espèce de fête. C'est pas courant.
Elle a bien raison, Gilles Deleuze. Hein. C'est rare d'avoir une idée. D'ailleurs, dans l'histoire de la philosophie, on s'aperçoit que les grands philosophes, ils ont juste une idée. Hein. Ils ont réfléchi toute une vie pour avoir une idée nouvelle. Mais alors, est-ce que ça vous parle, cette idée, vous qui avez fait tant de films, hein, d'une idée? Une idée de cinéma?
Ouais, mais je crois que par exemple, je reviens toujours à Sourgoyen, parce que je parle de lui et que c'est quand même ma rencontre de ces derniers mois. Lui qui est très, qui manie hyper bien la caméra, qui a des idées formelles, tout ça, il renoncera toujours à une idée si elle sert pas un propos. Et le cinéma, j'ai l'impression, ou la mise en scène même au théâtre, c'est Prej Lokaj qui dit ça aussi. Si on voit mon idée, alors c'est qu'elle est pas bien exprimée. C'est-à-dire que l'idée et l'intention doivent disparaître devant la nécessité, devant le propos ou devant l'émotion. En fait, les idées, c'est un moyen. Et je me méfierais toujours de quelqu'un qui serait trop théorique. Le cinéma que j'aime, en tout cas, peu importe son genre, c'est quand à la fin je ressens et que je peux comprendre, je peux réfléchir à ce que j'ai vu ou comment ça a été construit. Si je vois la construction, si je vois les fondations, si je vois l'idée, je pense que moi j'aime bien être renversée. Je pense que le cinéma, c'est un endroit d'émotion d'abord, et après ça dépose un truc qui remonte au cerveau, quand même. C'est un truc d'image, c'est un truc de... Ouais. Mais même la peinture, moi, vous savez, je suis pas quelqu'un d'hyper cultivé, mais je suis quelqu'un d'intéressé, je suis quelqu'un de curieux. J'aime la photo sans la connaître, j'aime la peinture sans la connaître, je suis nulle en musique, mais je peux ressentir. C'est des formes d'art qui sont, en fait... C'est chouette aussi la culture. On nous fait croire qu'il faut savoir pour comprendre ou pour ressentir, c'est une connerie. Et le cinéma... autant que la musique, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut prendre comme on veut le prendre. Il faut arrêter d'expliquer aux jeunes comment ils doivent lire, comment ils doivent regarder, comment ils doivent penser. C'est chiant, on les emmerde. Et laissons-les tranquilles et laissons les gens prendre les choses là où ils ont envie de les prendre. Je crois que le cinéma, c'est quelque chose qui permet ça.
Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est ce qu'il voulait dire. Deleuze, à mon avis, ouais. Il voulait dire ça. Il voulait dire qu'une idée de cinéma, c'est une manière de rendre sensible une question, justement, ouais. De manière non théorique, avec des images en mouvement. Il travaillait beaucoup cette notion d'image en mouvement. Je pense que vous êtes d'accord et que vous êtes en fond deleuzienne.
Mais moi, Deleuze et moi, on a toujours, ouais. On est frères.
Vous avez déclaré dans Elle, je veux que le cinéma m'élève, qu'il me rende meilleure, plus douce, intelligente. aimante, qu'il me déplace de mon petit centre névralgique et de mes petites préoccupations de bourgeoise parisienne.
Ouais, ça marche ou pas ? Je crois. Oui, le cinéma me fait beaucoup d'effet. Je m'y abandonne complètement. C'est pour ça que moi, j'aime bien la salle. Après, je répète, je pratique aussi la plateforme. Il y a plein de plateformes qui offrent des trucs très différents. Mais c'est vrai que j'aime bien la salle. J'aime bien la sensation d'être toute petite devant l'écran et que le film est forcément plus fort que moi et qui va m'emmener ailleurs. Comme je vous ai dit, j'aime bien apprendre, mais je suis pas scolaire. Je me suis fait chier à l'école. J'ai pas envie qu'on me décortique les trucs. J'aime pas quand c'est pénible. Et je trouve que le cinéma, c'est facile. C'est facile de s'y abandonner, c'est ça que j'aime. Et je crois, ouais, que les acteurs aussi, ce qui me dépose, les émotions qu'ils me laissent. J'aime bien les gens, moi j'aime bien l'humanité.
C'est pas parfois difficile quand même aussi de rentrer dans un rôle. Je prends l'exemple, vous avez joué Hervé Guibert au théâtre, dans la pièce Les Idoles de Christophe Honoré. C'est toujours facile?
Quand il y a un metteur en scène, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est quand il y a pas de metteur en scène ou des gens qui fabriquent des choses sans être des cinéastes ou tout ça. Ça arrive, hein, il y a des gens qui font du cinéma et pourquoi pas, ils ont le droit aussi, ils sont moins metteurs en scène que d'autres. Un metteur en scène qui a une vision, en fait, il vous embarque sans que vous vous en rendiez compte. Et si on atteint cet endroit de disponibilité dont parle Depardieu, qui serait, selon lui, le cœur du métier, et j'ai l'impression qu'il a raison, se rendre disponible à un metteur en scène, à une histoire, à un personnage, si on arrive à ce truc-là, en fait, c'est plus facile que ça n'y paraît. Et il y a beaucoup de plaisir, en fait, à se laisser faire, à se laisser regarder. Et je crois que... Je crois pas que ce soit... Ce qui est difficile, c'est quand il n'y a pas, quand on n'est pas encadré. Mais quand on l'est...
Mais vous voulez dire disponibilité, ça veut dire, au fond, je suis disponible pour n'être plus moi. Je me laisse faire, je fais confiance, je m'abandonne.
Il n'est plus question de toi. Évidemment, en amont, on réfléchit, on pense, on construit, on fait ce qu'on veut. Et une fois qu'on y est, c'est se laisser, c'est prêter son corps à une autre histoire. Il va se modifier tout seul parce que la fille, elle doit courir vite alors que moi, je cours lentement. Bon, ben voilà, ça va. C'est une question de... Il n'est pas question de soi. C'est hyper reposant, ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Et c'est quand même une perspective pour faire plusieurs films parce que si on propose que soi-même, alors bon, ben, au bout de trois films, on va faire chier tout le monde.
Je crois que parce qu'il y a une intensité du visible sur l'écran, on accède à l'invisibilité. Et devenir invisible, c'est une grande jouissance, en fait. N'est pas invisible qui veut. Et je crois que le cinéma, c'est une expérience de notre invisibilité. Et devenir invisible, c'est comme devenir un pur esprit. C'est-à-dire, c'est comme si on échappait enfin à toute une dimension corporelle, à une identité personnelle. Et comme si, dans une salle obscure, des centaines de petits esprits voletaient dans la salle, on est un petit esprit qui volette. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre un peu du spiritisme dans le cinéma et d'étapes tournantes. Il y a quelque chose comme ça, parce qu'il est évident que les acteurs sur l'écran sont des esprits eux-mêmes. Ils ne sont pas incarnés, ils sont désincarnés. Ils ne sont que des images, donc des esprits projetés sur un écran.
C'est marrant, parce que quand j'avais prévu de vous faire écouter ça, je pensais pas à ce que vous avez, je pensais à autre chose.
Ouais.
Mais là, ça fait résonner ce que vous avez dit. Au fond, vous êtes invisibilisé en tant que Marina Foïs, finalement, au moment même où vous jouez tel rôle, Hervé Guibert, ou telle mère de famille débordée dans Papa Maman, ou n'importe quel autre rôle, au fond.
Ben oui, j'aime bien cette idée-là, et je trouve que dans les bons films, très honnêtement, dans Sorogoyen, je me reconnais pas complètement, mais même ma gueule, je suis pas sûre de, j'ai pas la, moi, la personne que je vois dans le miroir le matin, et la femme qui est dans le film, j'ai pas l'impression que ce soit la même, et ça me va.
Mais ça va quand même à l'encontre de l'idée qu'on entend souvent, qui est que le grand acteur, la grande actrice ou le grand comédien, pour bien jouer ce rôle, il va aller chercher au sein de sa multiplicité au moins une part vraie et authentique.
Bah,
on pourrait penser que c'est pas vrai.
C'est pas antinomique, en fait. C'est toujours mon corps, c'est toujours ma voix. Il y a un fond de mes douleurs ou de mes espoirs ou de mes joies ou de mes croyances les plus... Elles partent pas. Mais elle s'efface, il y a ça qui remonte à la surface, et puis c'est pas très conscient, en fait. Je pense que les plus belles choses, c'est ce qu'on ignore qu'on joue, en fait, c'est ce qui refait surface. Et il finit par dire que les acteurs sont des purs esprits, je pense quand même qu'on est des corps à l'œuvre. Je veux dire, il y a un truc qui est imprimé de nos vies, de notre ADN. On laisse des cellules mortes sur un plateau, donc...
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce film Asbestas, franco-espagnol de Rodrigo Sorogoyen, on voit vraiment les corps. Les corps très bien filmés, le vôtre en train de cultiver des tomates, le corps de Antoine, c'est ça, qui est très massif, très, très encombrant et très touchant, très émouvant aussi.
Up the whole night.
c'était Sharon von Eaton Anything.
Sous le soleil de Platon.
Est-ce que la grande magie du cinéma, c'était pas d'immortaliser un instant ?
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Marina Foïs et nous parlons du propre de l'homme, comment on fait pour ne pas vivre comme des bêtes. On avait ce joli passage avant d'un anonyme qui avait été interviewé dans les Nuits Magnétiques, qui nous parlait de cette manière dont le cinéma donne à voir l'invisible. Ça m'a fait penser, de manière un peu décalée, j'espère que vous n'allez pas mal le prendre, un truc que vous avez dit que j'ai trouvé très drôle, qui est que vous vous voyez vieillir de film en film.
Bah oui.
Moi ça m'a beaucoup touché, parce que quand on est prof de philo, comme c'est mon cas, chaque année, on se prend un coup de pelle. Parce que chaque année, les élèves ont le même âge, 16 ans, 16 ans et demi, 17 ans. Et nous, on se prend un an de plus. Et donc, je comprends ce que vous dites.
Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Non, je me suis jamais mis dans la peau d'un prof.
C'est le coup de... Oui, j'ai compris, mais c'est le coup de pelle de la rentrée. Ouais. Alors qu'au début, voilà, moi, j'ai l'impression que mes élèves, ils avaient mon âge.
Mais vous êtes prof, toujours.
Concrètement, même si c'est pas le sujet principal de l'émission, je suis en disponibilité.
D'accord.
Mais j'ai enseigné
plus de 20 ans. On parle de la note de votre fils. Donc en fait, elle vous est directement dirigée. C'est ça que vous avez pas dit.
Mon fils est un génie, il s'appelle Marcel, je le sais.
Je n'ai aucun doute. J'ai beaucoup aimé tout ce que vous m'avez dit de lui.
Alors, je voudrais qu'on aborde aussi, peut-être, toujours cette question du propre de l'homme, peut-être à travers la question du rire. Vous avez aussi beaucoup fait rire au cinéma. Est-ce que peut-être ce rire-là, cette manière dont la vie, comme ça, soudain, se détend, dont les enjeux se relâchent, dont finalement on respire en se disant bah, « so what, c'est pas si grave », est-ce que c'est pas ça, en fait, qui nous distingue des bêtes ?
Alors, je connais pas assez les bêtes, mais c'est hyper possible. Moi, je cite toujours un jour. J'ai jamais compris. Moi, je suis née dans une famille où l'humour, c'est comme un réflexe, c'est presque trop, c'est un art de vivre, c'est voilà. Et un jour, j'ai lu La Promesse de l'Aube et j'ai lu la définition de Romain Gary, qui dit que l'humour est cette façon habile et entièrement satisfaisante de se soustraire au réel pile au moment où il va vous tomber dessus, et que c'est l'affirmation de la dignité, de la supériorité de l'homme sur son destin. Ça m'a éclairé. J'ai dit oui, pour moi, c'est exactement ça. C'est pour ça que je le place au-dessus de tout. Une journée où j'ai paré une seule fois est une journée de foutu. C'est une journée de perdu. Ça n'a aucun sens. Je n'envisage pas la vie. D'ailleurs, les gens les plus légers, les plus gracieux sont ceux qui ont les plus grandes douleurs. Les gens qui sont très, très sérieux sont ceux qui n'ont rien vécu parce qu'ils croient que la vie, c'est sérieux. Non, la vie, c'est violent et c'est dur. Donc, qu'est-ce qui nous reste ? Le rire, la légèreté et la distance. Les Italiens le comprennent mieux que d'autres peuples. Les Belges aussi. Oui, ça peut être culturel. Les Brésiliens, voilà, c'est quelque chose, pour moi, c'est au centre, c'est, si on n'avait pas ça, rien ne vaudrait la peine.
Je vous recommande d'ailleurs, puisque vous m'avez parlé de mon fils, ce podcast de Caroline Goldman, qui est une psychologue spécialisée dans le développement des enfants, et qui a fait un épisode entier sur les vertus du rire dans l'éducation des enfants, mais qui est très argumentée. Et elle explique exactement comme vous que si on rit une fois par jour avec ses enfants, mais ça change tout.
Évidemment, mais c'est surtout que les enfants, c'est les seuls qui nous réservent des surprises en vrai. Nous, on est adultes, on est dans des routines, on trace, on a des convictions, des certitudes, des manières de faire, des machins. Les seuls qui viennent vous bousculer, vous foutre la merde, voire vous remettre en question et avoir des sales notes dans votre domaine de prédilection, ou ne pas aller au cinéma comme les miens, bah, c'est nos enfants.
Ils vont pas au cinéma.
Bah, voilà. Ils vont pas. Si.
C'est comme mon fils qui fait pas de philo. Quoi.
Voilà. Bon, et eh ben, c'est
pour
la réaction.
Pour
voilà. Ben, pareil pour les miens. Non, mais je veux dire, on s'en fout. Mais je pense que les mots, ils nous font réagir et nous surprennent beaucoup plus que les gens de notre âge.
Vous avez tout à l'heure parlé de cette perspective comique, de l'humour qui n'est pas de l'ironie. Quand on voit votre chemin, les Robin des Bois, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Papa Maman, c'est vrai que c'est de l'humour. L'ironie, c'est plus, l'ironie, disait Yankelevitch, c'est tendre la perche à celui qu'on égare. C'est provoquer l'intelligence de l'autre, mais avec un petit pas de côté. L'ironie est pas loin du sarcasme, elle est pas loin de la morsure, elle est pas loin d'une sorte d'intelligence un peu trop pointue. Alors que le comique, c'est autre chose, quoi. C'est redonner de la place à la vie, quoi.
Ouais, et puis moi, j'aime quand on rit avec, plus que quand on rit contre. C'est-à-dire que quand celui à qui c'est destiné ou quand celui que vous pointez du doigt peut rire avec vous. Alors là, ça élève et ça a du sens. Moi, par exemple, je suis terrorisée. L'ironie est une arme de destruction massive. Il paraît que je l'ai souvent et je...
Ah oui, c'est vrai, ça vous a été reproché.
Ouais.
C'est vrai.
Et c'est un peu malgré moi. Au-dessus, il y a le cynisme, qui est quelque chose qui me terrorise et que je déteste. Ça me fait peur. J'aime pas cette manière de regarder le monde. En revanche, oui, par le rire, on peut désamorcer beaucoup de choses, se désamorcer soi-même.
Ouais, mais ouais. L'ironie, on peut quand même aussi l'entendre sous un jour plus positif. Mm. Par exemple, l'ironie socratique, c'est vraiment une façon de renvoyer à l'autre la limite de ce qu'il vient de dire, en fait, pour lui proposer de s'élever.
Ok, oui.
L'ironie, c'est pas toujours une moquerie, quoi.
Non, je ne sais pas quoi répondre à ça.
Parce que c'est vrai que ça vous a blessé qu'on vous reproche.
Non, pas du tout. Non, je pense que c'est quelque chose qui me. Non, ça m'a pas blessé. Je pense que c'est un travers que j'ai. Après, on a le droit toujours de. On fait ce qu'on peut de la réalité et on la décale comme on peut. Mais c'est vrai que je préfère le rire. C'est un truc qu'on. C'est un truc de partage. Ouais, cette vertu-là, elle est supérieure.
Vous êtes, vous présentez le cinéma comme une manière de sortir de votre monde de petite bourgeois, c'est vous qui le dites, vous êtes née à Boulogne-Billancourt, comme moi.
Moi, mais je suis née dans la maternité des pauvres, attention, il y en avait deux, il y avait le Belvédère et la Villa Marguerite, je suis née chez les pauvres.
Je connais cette petite banlieue ouest et vous êtes fille et petite fille de psychanalyste.
Absolument.
Ça m'amène à une question un peu moins drôle, est-ce que finalement le propre de l'homme, ce serait pas le trauma psychique ? C'est-à-dire la possibilité d'être traumatisé plus qu'un animal.
Peut-être, je crois que c'est aussi un truc culturel. Il y a quand même des endroits où on fait de la psychanalyse comme on va chez le dentiste et d'autres cultures dans lesquelles on ne pratique pas du tout ça. C'est hyper intéressant. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait de nos douleurs ? Quelle place on leur accorde ? Moi, après, c'est un exercice que je trouve très intéressant. Je pense que si tous, on faisait un travail sur soi au lieu de reprocher aux autres ce qu'ils nous offrent pas, peut-être on vivrait dans un monde où on perdrait moins de temps, on partagerait plus et on se mélangerait mieux. J'aime bien l'idée que on peut se prendre en charge, faire le ménage, pas tout seul parce que c'est trop difficile et que on va voir quelqu'un qui nous aide à balayer la merde, que du coup on inflige moins aux autres. Moi, c'est une pratique que je trouve hyper intéressante.
Donc vous avez grandi et derrière la porte il y avait votre mère qui recevait des patients.
Non, parce qu'elle avait pas, elle est devenue psy avant. Elle a été d'abord, elle a fait plein de gosses, après elle a pratiqué, elle avait 40 ans, donc moi j'étais déjà.
Ça, c'est votre mère.
Ouais.
Il y a votre grand-mère aussi.
Ouais, mais ma grand-mère, je crois que c'était une très mauvaise psy. Elle était tellement méchante, j'arrive pas à croire qu'elle sort. J'arrive pas à imaginer quelle sorte de psy. Et puis, ma grand-mère, elle était psy juste après-guerre, donc je pense qu'on pratiquait très différemment. Oui, et si ça. Elle a bien été pas psy, c'est dans notre famille. Donc c'est pas du tout un exemple, pas du tout une rêve.
Bah, cela dit, parfois on est très bon dans un lieu et pas du tout dans l'autre. Par exemple,
c'est une bonne incarnation de ça, ma grand-mère. Elle était horrible.
Il y a une phrase de Nietzsche qui peut nous éclairer, qui est assez géniale, qui dit plus d'un, qui ne peut se libérer de ses propres chaînes a su néanmoins en libérer son ami.
Absolument. Eh bien, j'espère qu'elle a libéré des gens parce qu'elle a bien plombé certains de ses enfants.
Vous savez, c'est comme ces prêtres qui sont plein de ressentiments, non quand même pas pédophile, c'est pas ce que je voulais dire, mais on peut en parler après, mais qui sont plein de ressentiments et qui prêchent l'amour merveilleusement.
Oui. Ouais.
Ou finalement, c'est psychologiquement névrosé, mais qui sont de très bons thérapeutes.
Oui, mais peut-être qu'il faut être très névrosé pour accepter la névrose de l'autre et que pour pas juger, il faut savoir que l'âme humaine aime la boue.
Ça m'amène à une question, Marina Foïs. Quand est-ce que dans votre existence, aussi bien dans la vie que dans votre métier, vous vous sentez le plus profondément humaine ?
Le plus ou ?
Ou la plus, c'est pareil. Je veux dire pas animal, quoi. Quand est-ce que vous vous sentez le plus humaine ? Ou la plus humaine,
pardon. C'est une bonne question. Peut-être que quand je partage bien, parce que je reparle de la disponibilité, la plus humaine, c'est quand je peux accueillir, écouter, recevoir.
Vous êtes en lien?
Ouais, avec les autres. Oui, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est la part la plus intéressante de mon humanité. C'est comment je regarde et comment j'écoute. Quand je suis capable, il y a plein de moments où je suis beaucoup trop préoccupée par moi-même ou par des conneries et que ça donne une fausse disponibilité.
Finalement, cette question de l'ego revient souvent dans votre propos comme quelque chose de...
Bah, vous êtes marrant, essayez d'être acteur sans ego. Je veux dire, la place qu'on vous donne, des jours les uns après les autres qui commencent par 1h30 devant le miroir, où on vous demande, tu veux un café ? Tu veux du sucre avec ton café ?
On vous a demandé pareil à la radio.
Hein ?
On vous a demandé la même chose.
Non, c'est moi qui ai exigé un café. Oui, ouais, parce qu'après on prend des habitudes, monsieur, vous êtes marrant.
Mais alors du coup, c'est pesant à la fin ?
Oui, il y a des moments où on a envie de se libérer de soi-même. Et par exemple, en fin de promo, quand on a parlé 2 semaines à parler de soi, sa vie, son œuvre, il y a un truc de moi, j'ai envie de m'enterrer dans un trou. Et je pense qu'on est tous pareils. Heureusement, il nous reste cette part de normalité qui fait qu'on sait que la vie nous accorde une place trop grande. Et en même temps, je vais pas débiner ce métier-là. Je pense que si le cinéma me fait du bien à moi, c'est qu'il fait du bien à des gens. Moi, il y a des acteurs qui sont mes idoles. Je les aime à la folie. et donc il m'aide à vivre. Donc je vais pas, je dénigre pas ce qu'on est, mais je constate.
Quel acteur, par exemple, vous a porté, vous a fait devenir celle que vous êtes?
Je pense que Depardieu est un, c'est un idole ou une idole, je sais pas comment on dit. Je pense que c'est le meilleur acteur du monde. Je pense que c'est un mélange de poésie et de trivialité qui n'a pas d'équivalent et qui me touche à un endroit, qui rejoint Hervé Guibert, parce que vous m'en avez parlé trois fois. Je trouve que l'écriture d'Hervé Guibert, c'est le jeu de Gérard Depardieu, c'est la même chose.
C'est-à-dire?
Eh ben c'est cette ligne, c'est-à-dire que on s'envole dans quelque chose de poétique qui vous élève et paf, on est rattrapé par une grande trivialité. Et il me semble que c'est la beauté de la vie, c'est les contrastes et c'est la réalité de ce qu'on est. Ça, c'est ça qui me touche.
Je crois que vos parents lisaient Hervé Guibert, ce qui fait que vous êtes tombé dessus jeune, c'est ça?
En fait, non, c'est moi qui ai lu Hervé Guibert. Moi, je suis la génération SIDA, en fait. Moi, je suis née en 70 et il se trouve que dans mon milieu, comme je fréquentais beaucoup de gays, j'ai enterré des gens très jeunes, que donc avant même que Guibert ne meure, j'avais déjà enterré des amis. Donc quand le livre de Guibert est sorti, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, je l'ai lu. C'est mes parents qui lisaient Libé, donc je me souviens de la mort de Foucault en fait. C'est 84, donc j'avais 14 ans. Voilà.
Oui. Et mais du coup, ce genre de lecture, ça vous a marqué au point de vous dire voilà, un jour je pourrais.
Non, je l'avais oublié en fait, Guibert. Je l'ai redécouvert. Mais ça a fait partie de ma vie en fait. J'ai tellement grandi, c'est tellement mon histoire que c'est des choses qui sont. D'autres vous diront Michael Jackson. Bon, ben moi, c'est le sida et c'est Hervé Guibert. Je sais pas comment dire.
Oui, c'est un repère.
Mais ça appartenait. Act Up a toujours été là comme Radio Nova pour. Je sais pas comment vous dire. C'est un truc qui a été là, mais que j'avais oublié en fait, parce que ça s'éloigne. Et puis ça revient très, très vif.
Il y a une vieille chanson des années 20, une chanson américaine qui dit Take your girl into the movies if you can't make love at home. Donc emmène ta petite amie au cinéma si tu ne peux pas la séduire à la maison. Donc le cinéma, jusque très tard, reste un des grands lieux d'initiation amoureuse.
Moi, j'ai une amie qui est réalisatrice qui s'appelle Katia Levkovic, qui est très douée, qui hier, on était au cinéma et elle disait à sa fille, mais nous, les réalisateurs, sa fille qui a 14 ans, elle disait, nous, on fait des films pour que vous rouliez des pelles devant. Et sa fille lui a répondu, maman, c'est plus du tout comme ça que ça se passe.
Ouais, c'est un peu ce que vous incarnez, c'est-à-dire que vous vous présentez souvent non maquillée, vous faites des stories, enfin, on a l'impression que vous refusez d'être l'actrice au sens où...
Moi?
Un petit peu, ouais.
Là, je suis pas maquillée parce que j'ai de l'eczéma sur le visage, mais sinon, j'adore être maquillée. Moi, je suis ultra, au contraire. Dans les films, je fais ce qu'on me demande de faire et je fais ce que nécessite le personnage.
Dans Asbestas, vous y allez à fond.
Dans Asbestas, je fais ce qu'il y a à faire, mais je joue Olga, je suis Olga, mais dans la vie, je suis hyper sophistiquée, j'adore les fringues, j'ai un très bon maquilleur, j'ai un coiffeur qui est au top.
Non, mais bien sûr, mais vous avez raconté d'ailleurs que vous aviez eu, par rapport à des années où vous aviez eu un problème avec votre corps, notamment, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez plus grosse que vous n'étiez.
Dysmorphophobie, ça s'appelle.
Et vous racontez très joliment que ce qui vous a permis d'aller mieux, c'est le regard que des réalisateurs délicats ont posé sur vous, et puis des hommes, et peut-être aussi vos enfants?
Exactement, l'homme avec qui j'ai fait des enfants, le père de mes enfants, évidemment, et les hommes qui m'ont aimé, et deux garçons qui s'appellent Nicolas Jesguer et Julien Dossena, qui sont mes amis, et qui moi j'ai toujours été passionnée par la fringue. La fringue, c'est aussi le costume, ça raconte beaucoup de nous, d'une société, et puis c'est un artisanat qui ponctuellement peut être un art ou une vue sur le monde, et de connaître, de les voir travailler, de voir poser leur regard sur moi, tout ça m'intéresse, et m'a aussi transformé, appris des trucs de moi.
Vous avez un exemple concret, à un moment, vous avez vu une création, un habit, et vous dites, ouais, ça n'est pas superficiel, au fond.
Mais je vais vous dire un truc, même si c'est superficiel, c'est nécessaire. Heureusement qu'on a droit au superficiel. Moi, je cherche un jean, là, qui serait le jean idéal. Je l'ai pas encore trouvé, c'est ma quête du moment. Et je m'en fous, je l'assume. Je fais aussi, là, je vous écoute, vous me citez Deleuze, ça m'intéresse beaucoup. Mais avoir un jean, ça m'intéresse aussi beaucoup. Et j'assume d'être ces deux personnes-là.
Merci beaucoup, Marina Foïs. Nous espérons que vous avez trouvé ce jean parfait, cette idée même du jean. Pour vous remercier de nous avoir accompagnés dans cette émission un peu bizarre ce matin, eh bien je vais essayer de dresser pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui est la vôtre. Alors voilà, il y a un rapport particulier à l'ego. Cet ego parfois semble vous encombrer, vous voulez vous en alléger comme ça, en jouant un rôle ici, un rôle là, tantôt comique, tantôt social, tantôt carrément profond et un peu métaphysique comme celui-là. Une philosophie de, à la fois de, du visible et de l'invisible, et aussi de l'authenticité. Et puis j'ai l'impression qu'il y a cette idée comme ça de prendre quelque part dans de la mode, dans de la création, dans des regards, dans des yeux, eh bien, une manière de devenir soi-même en n'étant pas comme ça englué, en n'étant pas contenu dans les limites d'une identité. C'est aussi un peu cette quête qui est celle d'Olga dans ce film Asbestas. Elle veut pas trouver un lieu comme ça qui soit imposé par la vie. Elle veut choisir un lieu pour devenir elle-même et assumer sa singularité. Marina Foïs, merci beaucoup.
Merci.
Cette émission a été préparée par Vera Loderi et Fabrice Rivaud. Elle a été réalisée par Camille Maty, à la programmation musicale Valentine Chedebois, à la technique Ludovic Aslo. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 9h précisément sous le soleil de Platon dans la caverne de France Inter. À demain.